France Inter.fr.
France Inter, il est 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, le printemps s'annonce orageux à la SNCF. La CGT appelle à une manifestation le 22 mars contre les options du rapport Spinetta, remis hier à Matignon. Ouverture à la concurrence, fermeture des plus petites lignes, remise en cause du statut de cheminot. Est-ce un pas décisif vers la privatisation ou des mesures de bon sens? Jean-Cyril Spinetta et Philippe Martinez de la CGT étaient ce matin les invités de France Inter. Vous entendrez leurs arguments, les arguments aussi d'un président de région, Alain Rousset, Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on est en train de sacrifier les zones rurales au nom de la rentabilité? Alain Rousset sera l'invité de ce journal. 5 milliards de bénéfices pour le groupe Renault l'année dernière. Résultat exceptionnel en hausse de 50% pour le numéro 1 mondial de l'auto et ses différentes marques. Carlos Ghosn garde le volant, mais il doit accepter à la demande de l'État une baisse de salaire de 30%. Sur les routes, les heures à venir et le début du week-end seront chargés. 2 zones sur 3 en vacances d'hiver à partir de ce soir. C'est orange en Île-de-France, demain orange partout et noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Les prévisions de circulation avec Laurent Borde dans une minute. Une médaille olympique à 16 ans seulement. C'est la performance de la Française Julia Pereira de Souza en argent au snowboard cross. 7e médaille tricolore. Déception pour l'une des grandes vedettes de ces Jeux, l'Américaine Michaela Schifrin. Malade, elle n'est que 4e du slalom. Dans ce journal encore, un braquage de banque à l'ancienne près de l'Arc de Triomphe ce matin. Toujours à Paris, le nouveau système de PV mis en place par Anne Hidalgo empêche-t-il toute contestation? Un avocat porte plainte. Et puis un tour à la Comédie Française. Poussière, nouvelle pièce à l'affiche. Même les comédiens ont l'air un peu dubitatifs, nous dira Stéphane Capron. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno.
La météo avec vous, à chaque fois je vous empêche de dire bonjour à tous. La météo avec vous, c'est calme aujourd'hui Sébastien.
Oui, on va tout de même garder une écharpe nuageuse des Pays de la Loire au nord Aquitaine jusqu'au Rhin et au nord des Alpes, mais les pluies vont s'estomper. Ce sera nettement mieux sur le reste du pays, avec du beau soleil et un ciel parfois voilé quand même, notamment sur la moitié, sur le tiers sud. Les températures, elles restent assez douces pour la saison, variant de 8 à 11 degrés sur la moitié nord et 11 à 17 degrés sur le sud, avec jusqu'à 19 degrés dans le Pays Basque.
Gardez votre écharpe. Alors Sébastien, est-ce que les vacances seront belles?
Alors le début de week-end va commencer avec une perturbation qui va aborder le centre-ouest en fin de journée aujourd'hui. Elle sera nettement active sur la moitié est demain, avec de la neige jusqu'en plaine sur l'Alsace et la Lorraine. Et puis pour les heureux vacanciers qui rejoindront les stations des Alpes, la limite pluie neige étant assez élevée, les accès seront quand même plutôt dégagé.
Merci Sébastien Léas. 13h30, la marche de l'histoire. Jean Lebrun en direct de Strasbourg. Et juste avant d'entendre les prévisions de circulation, d'abord en ce jour où les routes seront chargées, quand la marée chaussée vous arrête pour vous féliciter.
Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Voilà, nous vous suivons depuis une dizaine de minutes et vous avez été ciblé comme un bon conducteur de la route. Si vous voulez bien descendre et présenter vos papiers, s'il vous plaît.
C'était ce matin sur les routes de Dordogne, opération de la gendarmerie et de nos confrères de France Bleu pour récompenser les bons conducteurs. Le garçon en question s'appelle Pierre, il a 46 ans, toujours ses 12 points de permis et il a gagné 50 euros de bons d'essence. Voilà pour le clin d'œil. Les prévisions de circulation maintenant, comme promis. Bonjour Laurent Borde.
Bonjour.
Quels seront, Laurent, les points sensibles dans les heures à venir, vous qui êtes au PC Mobilité de Radio France?
Eh bien, les points sensibles, ce seront surtout les grandes métropoles, hein, puisqu'il est vivement conseillé de quitter Bordeaux, Paris, Lyon et Grenoble avant 16h ou après 20h, évidemment, axe principal qui risque d'être encombré ce soir, la 6 entre Paris et Lyon. Et puis, dès ce soir aussi, une forte affluence est attendue du côté de la SNCF, puis avec plus de 900 000 voyageurs au cours de ces 3 jours, voyageant dans plus de 2400 TGV.
Merci beaucoup Laurent Borde. À propos de bons conducteurs, celui-ci s'appelle Carlos Ghosn, le PDG de Renault, Nissan, Mitsubishi, présentait ce matin les résultats 2017 de son groupe. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
L'image d'une industrie automobile française ringarde, dépassée par les Allemands, les Japonais, les Américains, bref tout le monde, eh bien c'est du passé. Renault, on le rappelle, est numéro 1 mondial et a enregistré l'année dernière des résultats exceptionnels, Manuel.
Des chiffres records partout, jamais connus à ce niveau chez Renault. Record de chiffre d'affaires, record de vente, record de profit opérationnel et profit après impôt. C'est le résultat d'un plan de développement de 6 ans qui s'est achevé en 2017, qui a consisté d'abord à tailler dans les coûts et investir sur les nouveaux modèles et les nouvelles technologies, puis qui s'est appuyé sur l'augmentation des ventes, ventes et parts de marché qui ont progressé partout dans le monde. En gros, Renault en est là aujourd'hui pour moitié grâce à sa gestion des coûts, pour moitié grâce à la croissance de ses ventes. Carlos Ghosn, le PDG de Renault.
Je suis effectivement très fier de là où Renault se trouve aujourd'hui. C'est bien sûr à cause d'une bonne stratégie, d'une stratégie qui a eu le courage d'affronter beaucoup de critiques et finalement qui a prouvé par les faits que c'était la bonne. Et deuxièmement, je suis très fier parce que cette stratégie n'aurait pas donné des résultats s'il n'y avait pas eu l'engagement des 120 000 Renault qui ont à fond appuyé cette stratégie et fait ces résultats.
Carlos Ghosn, donc on entend à votre micro, Manuel Ruffez, il reste à la tête de l'entreprise pour 4 ans encore, mais on prépare l'avenir, un numéro 2 est là, Thierry Bolloré. Et Carlos Ghosn doit accepter de baisser son salaire, c'est à la fois symbolique tant ses revenus sont élevés, mais c'est aussi important, moins 30%.
Ah bah important oui, parce qu'on est sur une réduction d'environ 2 millions d'euros par an, mais sur une rémunération cumulée, Renault, Nissan, Mitsubishi, qui tournerait autour, selon les calculs, de 17 ou 18 millions d'euros annuels, hors stock options et bonus. Et cette baisse chez Renault, il l'explique, Carlos Ghosn, par justement cette nomination d'un numéro 2.
La nouvelle gouvernance de Renault fait que je me suis adjoint à un patron des opérations. Donc, il est tout à fait normal qu'on ajuste les rémunérations. La mienne va baisser puisqu'il va prendre une partie du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Compte tenu du fait qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le montant de la rémunération, ça va dans le bon sens.
Et est-ce que Thierry Bolloré, le nouveau numéro 2, pourrait lui succéder? Ce n'est pas moi qui décide, dit Carlos Ghosn, mais il est en pole position.
Merci Manuel Ruffez de la route au rail. Il n'a pas fallu 24 heures ce matin, au lendemain de la remise du rapport Spinetta sur le transport ferroviaire. Le leader de la CGT annonce une manifestation nationale le 22 mars à la SNCF. C'était sur France Inter qu'il annonçait cela, car le débat sur l'avenir du rail en France, c'est sur France Inter qu'il s'est tenu aujourd'hui. Les deux acteurs importants du moment, invités de la matinale de Nicolas Demorand, Jean-Cyril Spinetta, l'auteur du rapport qui propose l'ouverture à la concurrence, la fermeture des plus petites lignes, la remise en cause du statut des cheminots, et Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, qui rejette tout cela. Écoutez les arguments de l'un et de l'autre grâce à ce montage de Sébastien Donat. 1 minute 30 pour comprendre.
Je ne sais pas si les cheminots doivent faire leur deuil de leur statut, mais ils doivent accepter l'idée que dans un monde qui change, les conditions dans lesquelles ils sont employés doivent également changer.
Il faudra qu'on m'explique en quoi le statut des cheminots est la cause des problèmes et des incidents que rencontrent bon nombre aujourd'hui de voyageurs. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un problème, on se retourne vers les salariés pour leur dire « c'est vous le problème ». Ces lignes soi-disant
désertes.
Est-ce que vous croyez que des entreprises privées vont s'occuper de la ligne Brive-Périgueux, la mission de service public, c'est ça. Par contre, essayer de récupérer des lignes rentables, oui.
Ne parlons pas de rentabilité, ça n'a aucun sens. Les systèmes de transport express régionaux, coûts 4 milliards d'euros par an, recettes commerciales 1 milliard, subventions 3 milliards. On n'est pas dans un domaine classique, on est hors marché. En revanche, on doit s'interroger sur ce qu'est le transport ferroviaire. C'est un transport de masse. Et lorsqu'il y a des très petits flux de trafic, il n'a aucune justification, ni économique, ni sociale. Personne ne songe à privatiser le système ferroviaire français. C'est impossible. Quand un système vit de 14 milliards d'euros de subventions, comment le privatiser?
J'ai tellement entendu de personnes comme M. Spinetta jurer la main sur le cœur qu'on ne privatiserait pas telle ou telle entreprise et que quelques années plus tard, l'entreprise était privatisée, que j'ai quelques doutes.
Jean-Cyril Spinetta, Philippe Martinez, ce matin sur France Inter, les deux interviews et les arguments des uns et des autres sont à réécouter sur franceinter.fr. Autres arguments venus de la droite, il y a des choses très novatrices et très courageuses dans le rapport Spinetta pour Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports. À gauche, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, le gouvernement a besoin de casser le statut des cheminots pour faire éclater la SNCF et parvenir à une privatisation. Le gouvernement, Bruno Le Maire, Benjamin Griveaux, la situation actuelle, c'est on va droit dans le mur. Il faut oser assumer de mettre sur la table les tabous et les privilèges. L'invité de ce journal est socialiste et président de région. C'est important dans ce débat. Bonjour Alain Rousset.
Bonjour.
Président de la région Nouvelle-Aquitaine. Votre regard global d'abord sur ce rapport. Quant au gouvernement, on dit qu'il faut assumer de mettre sur la table les tabous et les privilèges. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je suis d'accord pour briser tous les tabous. Par contre, parler de privilèges,
à propos du statut des cheminots,
ça me soucie. Le problème, c'est pas le statut. Le problème, c'est l'organisation de la SNCF. Mmh. Je le vis. Ça peut se poser en termes d'horaire de travail des conducteurs. Ça peut se poser en termes d'organisation de la maintenance. Ça peut se poser en termes de rapport entre une région et la SNCF. Songez. Vous achetez une voiture, mais en même temps, elle ne vous appartient pas. Ben, c'est ce qui se passe pour les régions. On achète 100% les trains, on finance 100% les unités de maintenance, mais on n'a aucun mot à dire sur l'organisation. Donc tout ça doit être effectivement reposé. Mais là où je ne suis pas Monsieur Spinetta, c'est de considérer que demain, faut fermer les lignes. Si on ferme les lignes, qu'est-ce qui va se passer en matière de lutte contre le réchauffement climatique ?
L'argument écologique, il est important pour vous, parce que à cet argument, Jean-Cyril Spinetta répond, mais attendez, les trains des petites lignes, c'est des diesels, le bilan écologique est catastrophique.
Mais il est moins catastrophique que qu'avec des voitures par milliers sur les routes. Et puis, est-ce qu'on veut, quel aménagement du territoire veut-on pour la France ? Est-ce qu'on veut que tout se concentre dans les villes, avec les problèmes d'atmosphère et d'air que l'on a à Paris, à Bordeaux ou dans d'autres villes ? Tout ça n'est pas sérieux. Est-ce que la France pourrait se sortir de ce pays du verbe, de ce pays où un microcosme, parisien décide de tout? En quoi Monsieur Spinetta va venir ici en Aquitaine devant l'Assemblée régionale décider que je ferme la liaison entre Agen et Périgueux, par exemple, entre Limoges et Poitiers pour aller prendre le TGV, entre Limoges et Angoulême?
Et à l'inverse, Monsieur Rousset, lorsque Jean-Cyril Spinetta dit le TER, c'est un coût de 4 milliards, des recettes de 1 milliard seulement, il y a 3 milliards de subventions, sous-entendu, ça ne peut plus durer. Ça, j'imagine alors, que vous, président de région, vous le vivez. Allez-y.
J'ai envie de répondre à Monsieur Spinetta, mais attendez. C'est le vieux débat, là, sur la dépense publique. Aujourd'hui, on a besoin de dépenses publiques, qu'elles soient mieux fléchées, qu'elles soient plus efficaces, que l'usager soit au cœur de cela, sûrement. Mais si demain on laisse tomber dans des pays, dans des territoires où les personnes sont plus âgées, ou bien les jeunes ont besoin pour aller au lycée. Vous savez, le problème de l'aménagement du territoire, c'est un problème global. Qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 30 ans ? Il s'est passé qu'on a aidé plus en matière de ressources, les villes les plus riches par rapport aux villes qui sont en difficulté. Donc on a dépeuplé le territoire. On a maintenu en isolement le paysan, le médecin, le prof, le maire. Donc si on veut avoir une stratégie d'aménagement du territoire, de cadre de vie, plutôt qu'une stratégie uniquement budgétaire, ben, ça signifie que il faut accompagner un peu plus, comme le fait l'Allemagne, comme le fait l'Italie, comme le fait l'Espagne, tous ces pays. Donc cette stratégie qu'on appelle volontiers réforme de structure, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, ces réformes de structure. Ce que je sais, dans mon vécu, dans mes relations avec les usines, les chefs d'entreprise, les médecins, les profs, les lycées, c'est que si demain on applique la réforme, par exemple, de l'apprentissage, on va fermer des lycées, des CFA, des maisons familiales.
Alors ça, c'est un autre sujet, monsieur Rousset. Pour revenir sur
la... Tout ça, c'est annoncé.
Oui, et on va parler des écoles dans un instant. Pour revenir sur la SNCF, quand Jean-Cyril Spinetta dit... En Ile-de-France, circulation très dense, utilisation vraiment dense du réseau. Et là, on n'a pas investi. C'est là qu'il faut mettre le paquet, dans ces zones très denses.
On n'a pas investi en milieu rural et en milieu suburbain non plus. Moi, j'ai fait faire le calcul par la SNCF de ce qu'il faudrait investir dans les 10 ans qui viennent pour sauver les lignes. C'est 1 milliard 200 millions d'euros. Et je dois dépenser 600 millions d'euros de suite. Donc, je demande pas que d'autres le fassent, mais je trouve assez étonnant que l'Europe m'accompagne. L'Europe qui pense à l'avenir, qui pense au réchauffement climatique, qui pense à l'utilisation du train pour rejoindre des territoires un peu éloignés, et que mon pays ne s'en préoccupe pas, et que j'ai des Spinetta ou autres qui me présentent des rapports qui sont à l'avenir ce que, pardon de le dire comme ça, McDonald's est à la cuisine française.
Et si, si ces préconisations sont reprises, on verra ce qu'en fait le gouvernement. De votre point de vue, on fait un pas important vers la privatisation de la SNCF, Alain Rousset ?
Je ne sais pas si ça s'appelle la privatisation. La SNCF a besoin d'être mise sous tension par l'application de l'ouverture à la concurrence d'un certain nombre de lignes. Parce que aujourd'hui, moi je ne sais pas... calculer les coûts ou contrôler les coûts de la SNCF. Je ne sais pas le faire.
Donc vous n'avez pas d'opposition de principe dans votre région à ce qu'il y ait une ouverture à la concurrence ?
Ah non, pas du tout, mais l'Association des régions de France l'a dit depuis le début. Ouais. Mais en même temps, je suis persuadé que l'application de la concurrence sauvera la SNCF. Je prends un exemple.
En un petit mot, parce que je voudrais qu'on dise un mot des écoles.
Très vite. Port de la Rochelle. Il y a une voie ferrée qui a été organisée à l'initiative de la Chambre de commerce, du port, etc., qui permet aux marchandises du port de rentrer dans l'arrière-pays. Savez-vous ce qui s'est passé pour la SNCF ? La SNCF a été obligée de bouger et a gagné des parts de marché.
Alors à propos du rapport entre grandes villes et zones rurales, il y a un autre sujet qui monte au sein de l'éducation nationale, le ministère de la vedette de la semaine, Jean-Michel Blanquer, qu'on a vu partout, l'impression des enseignants en zone rurale qu'ils sont les oubliés des réformes actuellement dans l'éducation nationale. On va écouter Alban, elle est institutrice dans une école maternelle à Rennes, c'est une commune de la Somme, une des quatre classes de l'école est menacée de fermeture et au fond, le sens de son propos, on est en train de déshabiller les zones rurales pour habiller un peu mieux les écoles éducation prioritaire.
On peut enlever un enseignant pour aller le mettre dans les fameux CP dédoublés à 12 et puis laisser les collègues des milieux ruraux avec 27 élèves par classe. Par contre, ça ne gêne personne. Alors que les soucis sont les mêmes en milieu rural et en zone urbaine. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Nous, notre inspectrice, elle faisait ce même constat, c'est-à-dire que le langage, que ce soit en zone urbaine, rurale, il est en chute libre. Et on l'observe dès la maternelle. Il y a un nombre de mots qu'ils devraient connaître à leur âge et qui n'est pas celui que nous, on constate dans la réalité. Il ne faut pas qu'il y ait énormément d'enfants dans les classes pour qu'on puisse justement développer ces ateliers de langage, avoir le temps de parler avec tous ces enfants. Et à 27, on ne peut pas le faire de la même manière. Ce n'est pas possible.
Propos recueillis dans une manifestation à Amiens par Faustine Calmel de France Bleu Picardie. Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes toujours avec nous. Hier, Jean-Michel oui. Blanquer disait l'encadrement en zone rurale sera plus important à la prochaine rentrée qu'à la précédente. Est-ce que vous avez l'impression qu'on déshabille les zones rurales pour habiller d'autres zones en matière d'éducation ?
Ah, écoutez, je prends la proposition, l'engagement de Jean-Michel Blanquer d'une manière positive, bien entendu. Dans ce domaine-là, le monde rural et le monde dit des zones prioritaires a les mêmes problématiques. Parce qu'on se trouve avec des jeunes dont l'environnement culturel familial est peut-être moins doté que le milieu bobo parisien, bordelais ou autre, avec des environnements d'ingénieurs, de cadres, de profs. Donc il faut renforcer l'encadrement dans ce milieu-là. Il faut aussi accepter que demain, c'est en tout cas l'engagement que nous avons pris en Nouvelle-Aquitaine, on ne ferme pas des lycées ruraux, même quand ces lycées ont 200-300 élèves, parce que ce sont des lycées professionnels qui peuvent avoir un rôle de diffusion technologique sur les entreprises du secteur.
Oui.
Et aujourd'hui, moi je suis inquiet, je le disais tout à l'heure, de cette réforme de l'apprentissage, parce que on va centraliser l'accompagnement de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'une branche professionnelle pourra s'intéresser au lycée d'Aigleton, au lycée d'Ussel,
ça pose un problème d'aménagement du territoire là aussi.
Et ben, on revient toujours à cela.
Merci Alain.
Quelle France veut-on ?
Merci beaucoup Alain Rousset d'avoir répondu à nos questions, président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà qui nous amène à l'actualité politique. Et ce constat au sein du parti Les Républicains, plus les mois passent, plus s'installe la rivalité directe Valérie Pécresse-Laurent Wauquiez. C'est lui le patron, lui qui a gagné l'élection et pris la tête du parti en décembre dernier. Il gouverne pour l'instant essentiellement avec des fidèles, des proches. Alors elle, Valérie Pécresse, essaye de faire l'inverse, élargir le plus possible. Bonjour Estelle Schmitt.
Bonjour.
Valérie Pécresse, Estelle a dévoilé hier soir l'organigramme de son mouvement qui s'appelle Libre. Eh bien, on y trouve quelques revenants et les deux principaux perdants de l'ère Wauquiez.
Ah oui, Florence Portelli et Maëlle Decalant qui estimaient qu'ils n'étaient pas assez représentés dans les nouvelles instances du parti décidées par Laurent Wauquiez. Ils se sont donc rapprochés de Valérie Pécresse. Florence Portelli devrait être secrétaire générale de Libre numéro 3 du mouvement. Maëlle Decalant, premier vice-président en charge du projet numéro 2. Et il travaillera avec Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon. Un organigramme digne d'un parti, une équipe dirigeante de près de 25 personnes, une dizaine de porte-paroles, des conseillers issus de toutes les sensibilités, fillonistes, sarkozistes, copéistes, jupéistes, comme Dominique Bussereau, qui pourtant s'est mis en retrait des LR il y a quelques semaines. Il devrait devenir conseiller spécial de Valérie Pécresse. La présidente de région Île-de-France, à l'évidence, rassemble et impose un rapport de force à Laurent Wauquiez au sein du parti. Elle dévoile des propositions, projette des déplacements au nom de son mouvement. mouvement. C'est l'autre droite qui s'organise, glisse un proche allusion aux mots de Valérie Pécresse lors du dernier Conseil national. Il y a deux droites. Mais attention, cette autre droite n'est pas un front anti-Wauquiez, précise ce même élu parisien. En tout cas, ça y ressemble beaucoup.
Et un jupéiste, il y en a un à Matignon. Édouard Philippe, précision, annonce ce matin. Vendredi prochain sera présenté un nouveau plan gouvernemental contre la radicalisation djihadiste. Nous allons à Pyeongchang, Corée du Sud.
Jeux Olympiques d'hiver 2018 sur France Inter.
Les Jeux Olympiques animés notamment par les athlètes des disciplines fun, le snowboard, surf des neiges, planche à neige pour le dire totalement en français. Une médaille de plus pour la France en snowboard cross aujourd'hui. Julia Pereira de Souza décroche l'argent, elle a seulement 16 ans.
Yo yo yo, je suis trop contente. Elle est trop belle, je l'aime trop. Elle est autour de mon cou, elle est là, elle est trop belle, je l'aime trop. Je suis trop contente. Beaucoup de travail, voilà, de choses mises de côté, enfin pour mon rêve, quoi. Voilà, c'est le snowboard, c'est toute ma vie, voilà, c'est ce que je veux faire pendant toute ma vie. Donc je suis super contente de l'avoir et voilà, et puis de la ramener parce qu'elle est aussi pour ma famille, elle est pour les gens que j'aime, elle est pour tout le monde cette médaille, elle est pour tout le monde. Mais voilà, non, on va aller fêter ça parce qu'il faut fêter ça, c'est génial, je suis trop contente. Bon, j'ai le bac à la fin de l'année quand même, hein, faut pas l'oublier celui-là. Mais je suis contente, voilà, je suis ravie. C'est comme si elle était en or, c'est pareil.
Pour recueillir par Fabrice Rigobert, 7 médailles pour la France qui est 7e au classement des médailles. C'est toujours l'Allemagne qui est en tête. Les autres résultats de la nuit, l'Autrichien Matthias Mayer, champion olympique en descente il y a 4 ans, gagne cette fois-ci le Super G. Le Suisse Dario Colonia remporte le 15 km libre en ski de fond. C'est son 4e titre olympique. Le slalom dame, victoire de la Suédoise Frida Hansdotter. Et c'est là que nous avons besoin de Franck Ballanger. Bonjour Franck.
Bonjour Bruno.
Spécialiste du ski à France Inter et de l'équipe France Inter aux Jeux Olympiques évidemment. Moi je pensais que c'est Michaela Schifrin qui allait gagner, elle était malade, elle devait tout gagner cette année, c'est mal parti du coup.
Vous êtes sévère quand même. Effectivement, aujourd'hui, elle n'a pas gagné. Elle s'est ratée, elle était un peu malade, elle a vomi au départ de la première manche. Ensuite, elle nous a avoué qu'elle était fatiguée, qu'elle avait mal dormi et qu'en plus, elle était un petit peu nerveuse. Donc effectivement, elle s'est loupée aujourd'hui. Elle a terminé 4e. Imaginez la taille du loupé. Et puis en plus, moi, pour relativiser un petit peu ce que vous me dites, je vous dirais quand même que hier, elle a remporté le slalom géant.
C'est vrai.
Qu'il lui reste encore la descente mercredi, le combiné vendredi et la compétition par équipe samedi en 8, ce qui fait donc 4 médailles possiblement. Voilà, je vous rappellerai juste que le record français de médailles d'or, il date de 1968 et que c'était Jean-Claude Killy. Donc si jamais elle remporte 3 médailles d'or ici, elle fera aussi bien que Jean-Claude Killy à 22 ans.
Oui, effectivement, vous avez raison. Allez, j'ai rien dit. Merci beaucoup Franck Ballanger. Bonne nuit à vous. L'actualité sportive hors JO en un mot, la Ligue 1 Monaco-Dijon ce soir en ouverture de la 26e journée de championnat. Et puis Federer qui sera peut-être dans quelques heures le numéro 1 mondial le plus âgé de l'histoire du tennis. S'il accède aux demi-finales du tournoi de Rotterdam, il prendra la place de numéro 1. Vous le savez, depuis le début de l'année, les tarifs de stationnement et les amendes ont changé dans beaucoup de villes qui ont pris la main. À Paris, le nouveau système a-t-il des ratés ? En particulier, est-ce qu'il rend difficile, voire impossible, toute contestation lorsqu'on est pénalisé ? L'avocat maître Éric Morin va porter plainte alors qu'une mésaventure lui arrive personnellement. Il se gare, il paye, mais on lui inflige tout de même un PV. Il veut contester, c'est là que ça se complique. Écoutez son récit, tendez l'oreille, la parole de l'avocat est claire, la ligne téléphonique un tout petit peu moins.
Lorsque Madame Hidalgo se félicite qu'il n'y ait que 3% de recours, c'est QFD, j'ai envie de dire. C'est parce que ces recours sont impossibles à faire. J'ai donc fait un recours en ligne, il s'est écoulé un mois où je n'ai eu aucune réponse. Et en l'absence de réponse de la mairie au bout de ce mois, je suis en droit, quel bonheur, de pouvoir saisir une commission nationale du stationnement payant. Je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Il n'y a même pas l'adresse sur l'amende, même si on ne peut plus l'appeler l'amende, pour que on me dise si j'ai été sanctionné abusivement. Mais pour faire ce recours devant la commission nationale du stationnement payant, il faut que je paye. C'est-à-dire que non seulement je me suis acquitté de mes 2 heures de stationnement à 8 euros, j'ai été sanctionné abusivement, et pour exercer mon recours, il faut que je paye 50 euros supplémentaires. On est dans un véritable abus de droit. Cette réforme, elle a été faite à marche forcée. Elle a été confiée à 2 sociétés privées. On est en plein conflit d'intérêts. Et nous allons exercer des recours jusqu'au bout pour que, enfin, un juge impartial et indépendant se prononce sur ce système.
l'avocat Éric Morin, au téléphone de Mathilde Dehimy aujourd'hui. Bonjour Philippe Rendet.
Bonjour.
Vous êtes là pour nous raconter une des informations de ce matin, un braquage de banque à l'ancienne, près des Champs-Élysées à Paris. Ça s'est bien terminé, sauf pour le gangster, Philippe.
Oui, le gangster âgé d'une vingtaine d'années qui est en ce moment hospitalisé après avoir reçu plusieurs balles à la cuisse et au thorax. Il est entré seul à 9h ce matin dans une agence BNP de l'avenue de la Grande Armée à Paris, pistolet à billes et bombe lacrymogène à la main. Il demande au directeur d'aller dans la salle des coffres. Une dizaine d'employés se trouvent à ce moment dans l'agence qui est en train d'ouvrir. Le directeur a le temps de prendre un téléphone pour appeler la police. 3 minutes plus tard, le braqueur qui est entré dans la salle des coffres sans résultat aperçoit les policiers. Il les menace de leur tirer une balle dans la tête, utilise sa bombe lacrymogène. Les forces de l'ordre font feu à 6 reprises, blessant grièvement le braqueur avant de l'interpeller. Difficile de connaître ses motivations. Muriel Le Sobry est commissaire divisionnaire, chef du 1er district de Paris.
C'est totalement un braquage à l'ancienne. Tout le monde sait très bien qu'il n'y a plus d'argent à voler dans les banques. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'ils voulaient avoir accès à la salle des coffres. Sauf que les salles des coffres sont totalement sécurisées, totalement verrouillées. Et les employés, quand bien même il y a un directeur d'agence, ne sont pas en mesure d'ouvrir les coffres. C'est d'autant plus étonnant, c'est qu'il était extrêmement déterminé, mais qu'il a l'air d'être sans doute le seul à ne pas savoir qu'il n'y a pas d'argent à voler dans les banques en 2018.
Voilà, le braqueur est connu pour des faits similaires. 2 employés ont été blessés, un homme frappé à la tête avec la crosse de l'arme de poing et une femme qui a été choquée.
Merci Philippe Rendet. Dans l'actualité encore, la plainte de cette violoncelliste professionnelle qui s'est fait voler son instrument qui vaut plus d'1 million d'euros. Ça s'est passé à Pantin, violoncelle qui date de 1737, estimée à 1,3 million d'euros. La comédie française, ce n'est pas que le théâtre classique que l'on apprend à l'école. Molière, Racine, Shakespeare et les autres, régulièrement, des œuvres contemporaines entrent au répertoire. C'est le cas avec Poussière, du Norvégien Lars Norén, à l'affiche jusqu'au 24 juin. C'est une pièce sur la vieillesse assez déroutante, y compris Stéphane Capron, manifestement pour les comédiens.
9 personnages âgés sont en villégiature dans une station balnéaire. Ils prennent le soleil, assis sur des chaises pliantes face à la mer. Dernière station avant la mort. Le texte de Lars Norén est composé de bribes de réflexions sur la fin de vie. Il s'est construit au fur et à mesure des répétitions avec les comédiens.
C'est plus de la musique que de l'action. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Nous avons créé le spectacle sur scène. J'ai choisi des acteurs, je les connaissais un peu, et nous construisons une pièce silencieuse tous ensemble.
A silent play together on stage.
Le regard de Lars Norén, qui est âgé de 73 ans, est sans concession sur la vieillesse. Il décrit la décrépitude des corps, la perte de mémoire, la maladie, l'incontinence. Didier Sandre est l'un des comédiens de la troupe.
Les mots ne sont pas uniquement le vecteur de communication du théâtre de l'Arche. Les corps, l'espace, la lumière, les costumes sont autant de mots que de phrases. Et ça, c'est une expérience nouvelle.
Le texte est diabolique. Pendant les premières représentations, on a souvent entendu la souffleuse, chose très rare à la comédie française. On sent les comédiens sur la corde raide et parfois un peu désemparés sur le plateau de la salle Richelieu.
Stéphane Capron à propos de Poussière de Lars Norén en alternance dans cette salle Richelieu de la comédie française jusqu'au 24 juin.
La météo avec Région de Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur régionjob.com.
Avant d'entendre Sébastien Léas, un mot de cet arrêté pris par le maire de Challans en Vendée qui a de l'humour et qui en a marre de la grisaille. Je vous lis les termes de l'arrêté qu'il vient de prendre. Le soleil est dans l'obligation de se présenter tous les matins du lundi au vendredi dans la ville et par extension à tout le département de la Vendée. En revanche, la pluie n'est autorisée que 3 nuits par semaine pour maintenir à niveau la nappe phréatique. Sébastien Léas.
Cet après-midi, on retrouve les résidus de la perturbation qui glisse sur le pays depuis quelques jours. Cette perturbation perd de l'activité, se traduisant essentiellement par un ciel chargé de l'embouchure de la Loire au bassin d'Arcachon jusqu'aux Alpes du Nord, à la Franche-Comté et au Haut-Rhin. Quelques gouttes arrivent quand même à s'échapper localement en Rhône-Alpes, avec même un peu de neige faible sur les Savoies. En revanche, en fin de journée, la perturbation va se réactiver par l'Atlantique et la pluie va refaire son apparition en Vendée, Charente-Maritime et sur le Médoc. Sur le reste du pays, l'après-midi est nettement plus lumineux avec un soleil voilé. L'impression est plus sur les Pyrénées, le Bas-Languedoc avec un voile de nuages plus dense. Le soleil règne sans partage au nord de la Seine, mais il est plus timide entre Corse et Côte d'Azur. L'ambiance reste douce pour la saison. Cet après-midi, il fait 9 degrés à Strasbourg et à Lille, 10 degrés à Paris, Lyon et Brest, mais 15 degrés à Bordeaux, Perpignan et Toulon, et jusqu'à 19 degrés à Biarritz.